le matin.
Bon mardi, les amis. 418-971-101 par texto. Comment ça se passe sur la route, Max?
Déjà de l'attente pour la porte nord. Sinon, le 20 ouest vers Taniata, déjà un solide ralentissement. Sur la rive nord, ça roule encore bien.
Deux affaires en fin de semaine que j'ai remarqué. Le move over là, c'est pas tout le monde qui respecte ça.
En effet.
Hey, t'as tellement raison. Moi, ça me fait capoter à chaque fois.
Y a-tu des opérations policières sur le move-over-là? D'ailleurs, c'est quoi l'expression française pour le move-over-là?
Corridor de sécurité.
Oui, faire son corridor de sécurité. Donc, quand il y a... moi, je le fais même pour les véhicules qui appartiennent aux gens. Là. Si, mettons, quelqu'un tombe en panne sur le bord de la route, ben, je me mets tout de suite sur la voie de gauche, si c'est possible, parce que c'est la loi. Là. Vous devez, s'il y a un véhicule qui est sur la voie de droite, qui est immobilisé aussi sur le terre-plein, de droite, vous devez, si c'est possible, prendre la voie qui est à votre gauche. Il n'y a personne pratiquement qui fait ça. Je trouve ça weird. Ceux qui travaillent régulièrement sur la route le font, là, sont tellement habitués qu'ils le font automatiquement. Mais conducteur du samedi, conducteur du dimanche, on dirait qu'on oublie ça.
Oui, puis je te dirais que ça peut arriver que des policiers procèdent à l'arrestation. J'ai une de mes amies qui s'est arrivée. Elle avait oublié de faire le move over là, puis floup.
Puis le flic, il a bien fait.
Parce que le flic avait fini son intervention, fait qu'il est reparti tout de suite.
Exact.
Bon, là...
Tu t'en rends compte que c'est dangereux quand tu changes ton pneu? Puis, mettons, ben c'est ton pneu côté conducteur, là, puis là, t'es accroupi, puis tu vois que les chars passent à 120 km/h à côté de ton péteux. Là. Tu t'en rends compte que c'est dangereux.
Mais, hein? Mais c'est ça. Bon, là, je vais embarquer dans les préjugés, mais laisse-moi le faire pour deux secondes.
Oh!
Mon ami, finalement, mon ami E, elle a pas eu de ticket. Ah, excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai oublié.
Ben,
c'est
ça,
vrai,
tu sais quoi?
Je connaissais pas la règle.
J'ai longtemps pensé comme toi, là, parce qu'effectivement, des fois, ça peut aider d'être une belle personne. C'est vrai que les filles s'en sortent pas mal plus souvent que les gars.
À sa défense, par contre, tout de suite, elle a dit hey, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai été donc.
Mais je m'en suis tellement sorti souvent, moi, en étant poli, gentil, puis en acquiesçant à ce qu'il était en train de me dire. T'sais, vous avez pas vu votre lumière, vous avez pas fait votre stop. Ça m'est arrivé une fois où j'avais contesté, là, mais pour le reste, je m'en ai sorti souvent. À un moment donné, le policier arrive, je rentre dans le stationnement décoqué dans le secteur de Chauveau, là, puis le policier dit « Bonne fête, M. Marceau ». Puis là, je me dis dans ma tête, « Criff, il est super gentil, mais... » Hey, le bonhomme, il travaille, sacrifice, puis il prend la peine de venir me dire bonne fête.
Ben oui.
Ça n'a pas de sens. Tu sais, va arrêter les voleurs. Ben, c'est parce que j'avais oublié de payer mon permis de conduire.
Ah!
Moi, je pensais que c'était un auditeur. Hein, tu sais, j'étais bien fier.
Ben oui, bonne fête.
Bonne fête, M. Marceau. Fait que je dis, ah, ben vous êtes bien gentil. Fait que là, je dis, mais pourquoi vous savez que c'est ma fête? Ben, c'est parce que vous n'avez pas payé votre permis de conduire. Là, moi, je le sais ce que c'est. Là.
Ben oui.
La sanction, là, quand tu n'as pas payé ton permis de conduire, il peut t'embarquer sur la flaude.
Ah,
puis il peut te donner des centaines et des centaines de dollars d'étiquettes. Puis il a dit, je vais faire une affaire avec vous. Vous laissez votre voiture ici dans le stationnement. Vous allez jouer au hockey. Et par la suite, vous devez absolument trouver un moyen pour payer votre permis de conduire. Ça doit dater de 10 ans. Là. Fait que ça clique, ça n'existait pas. Là. Mais ça doit dater d'à peu près 10 ans, cette affaire-là. Puis je m'en suis sorti. Mais il aurait pu être... Il aurait pu être méchant. Là.
Mais hein, il aurait pu être complètement différent.
Puis l'autre, parce qu'il y a le move-over-là qui n'est pas respecté. Puis l'autre, là, c'est les gens qui campent sur la voie de gauche. Encore vendredi, là, je montais à Montréal, puis c'est ce que j'ai remarqué. Là. Les gens campent sur la voie de gauche.
Ouais.
Peut-être parce que la voie du centre est un peu plus maganée, là, mais la voie pour voyager, quand vous êtes à 100, 110, 120 km/h, la voie pour voyager, c'est la voie du centre. Pour doubler, c'est quelle voie? Pour doubler quelqu'un qui est en face de toi,
c'est
tu prends la voie de gauche et tu reviens par la suite
exactement.
Dans la voie de voyagement qui est la voie du centre ou encore la voie de droite si vous avez juste deux voies. Mais je comprends pas qu'est-ce qui est si compliqué que ça, Jeff.
Moi non plus, parce que j'ai toujours appris à conduire comme ça puis c'est exactement ce que je fais tout le temps.
Les gens s'endorment-tu? Ils s'endorment-tu en conduisant?
Ah ouais, je pense que les gens deviennent dans leur tête. C'est un bon point, ça.
C'est bon.
Ils viennent dans leur tête, puis là, on est quelqu'un en arrière.
Ou mes chums camionneurs, que j'adore, qui des fois s'envoient des babayes sur l'autoroute. Là.
Ouais.
Il y en a un qui est à 104, l'autre est à 105.
Puis là, sont les deux à côté de l'autre.
Là, ils arrivent à la même hauteur, là, les fenêtres. Là, d'après moi, ils jasent.
Ouais.
C'est des jaseux. Ils jasent, s'envoient des babayes.
Puis, combien de personnes étaient sur leur cellulaire?
Puis
7
là,
sur 10!
Après 20 minutes, là, tout d'un coup, t'es capable de.
Ouais, mais ça, c'est un dépassement. d'un truck de 60 pieds de long, 105 contre 104, ça prend du temps gris.
Ah oui.
Ah.
Les news 102.1.
Max, il est 6h27, tu nous parles de quoi ce matin dans l'actualité?
Le financement du fédéral pour le projet de tramway de Québec qui passera officiellement à 2,75 milliards. On s'approche donc du 40% demandé par Québec, mais on ne l'atteint pas. On est à peu près 36%. C'est une annonce qui sera faite aujourd'hui du côté de Longueuil par Marc Carney et Christine Fréchette. Là, évidemment, que vous vous dites, c'est quoi le rapport du côté de Longueuil? Pourquoi Bruno Marchand ne sera même pas là de ce qu'on comprend? C'est parce que c'est une annonce qui va comme faire partie d'une autre annonce à plus grande échelle concernant l'entente entre le provincial et le fédéral sur le financement du transport collectif québécois via le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada. Le Québec était la seule province à pas avoir de deal encore là, à ce niveau-là. Donc, le gouvernement du Québec qui pourrait utiliser d'autres sommes de ce fonds-là pour ajouter au entre guillemets, financement fédéral du projet de tramway. Mais en tant que tel, vraiment, pour le projet de tramway, on passe à 2,75 milliards vraiment réservés pour ça. Les travaux liés au projet de tramway sur le boulevard René-Lévesque qui débuteront en septembre prochain entre l'Université Laval et l'avenue Hollande, c'est ce que CDPQ Infra a confirmé à Radio-Canada. Ce qu'on indique, c'est que les travaux plus lourds pour la portion entre les avenues Belvédère et Hollande sont prévus à partir de 2027, mais c'est une situation qui pourrait évoluer. La directrice des communications pour Tramcité, Claudie Côté-Chabot, explique que plusieurs sections du boulevard René-Lévesque font l'objet de travaux et la planification détaillée des chantiers évolue à mesure que les étapes de conception se précise. Entre juillet et septembre, les travaux qui vont surtout servir à préparer des aires d'entreposage pour la machinerie et le matériel. Et après ça, ben, on va travailler aussi à l'aménagement, ben, en même temps, j'ai envie de dire, là, à l'aménagement des accès pour les résidents en vue du vrai début des chantiers qui arrivera par la suite. On a parlé là en ouverture, l'Université du Québec qui veut passer de la parole aux actes concernant sa présence dans le quartier Saint-Roch et souhaite installer un nouveau pavillon ainsi que deux résidences étudiantes de 250 places chacune. Mais encore là, c'est comme une annonce d'une annonce dans un sens parce que on sait pas encore où on veut placer ces résidences étudiantes-là. On sait pas où on veut placer le pavillon non plus. On est vraiment au stade embryonnaire. Bruno Marchand a salué quand même les intentions de l'Université du Québec en parlant du plus haut niveau d'engagement public pour le quartier qu'on n'aura jamais vu. Il y a des démarches là, qui sont notamment lancées sous peu concernant le financement des résidences étudiantes via le programme fédéral Maison Canada. D'ailleurs, le journal a remarqué hier que le campement de personnes en situation d'itinérance installé sur la place de l'Université du Québec dans Saint-Roch a été retiré dans les dernières heures, mais le maire Marchand dit que ça n'a pas de lien là, avec l'annonce qui a été faite hier.
Ça n'a pas de lien, mais c'est un drôle de hasard. Puis j'aurais aimé ça que les journalistes lui posent la question au maire Marchand, mais où on va localiser 1000 personnes dans ce quartier-là? Là? Il n'y en a pas de place actuellement. T'sais, pour ce qui est du projet de Trudel Alliance, là, qui est un super ouais. de beau projet, on a gossé pendant des mois et des mois, si c'est pas des années. Il y aura pas d'étudiants, fait que ce serait pas là.
Le terrain de l'ancienne Aubrivière, maison de l'Aubrivière, ça, il y a déjà un projet aussi qui est prévu, projet de logement.
Mais c'est vraiment pas pour les étudiants. Là.
Ben, ben non, pas du tout.
Les loyers sont un peu plus chers.
Les loyers sont plus chers, en effet. C'est vraiment pour des professionnels, là, parce que il y a pas beaucoup de cases de stationnement, donc c'est pour des gens qui vont se déplacer en mobilité ouais. active ou transport en commun.
Je trouve ça bien comme initiative, mais j'ai l'impression qu'on l'a un peu prémédité parce qu'on en parle tellement de ce quartier-là, puis c'est pas tout le temps positif. Ben, c'est ce qu'on se dit, hey, on veut pas trop que les commerçants ben oui. s'en aillent, fait qu'on se dit, hey, reste encore, il y a 1000 étudiants qui s'en viennent dans le secteur. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de place. Là.
Ben, c'est parce que la réalité, c'est que l'annonce d'hier, dans le fond, c'est qu'on va partir à l'étude pour 5 ans pour voir comment qu'on va faire le projet. Fait que c'est pas demain matin.
On va partir à l'étude ouais, pendant 5 ans pour voir comment on va faire le projet qu'on vient d'annoncer.
Exactement, parce que hier on a annoncé qu'il allait avoir un chargé de projet qui allait faire une étude, ouais. qui allait revenir avec des conclusions. Fait que normalement, on fait pas une conférence de presse pour dire « Hey, checkez ça, on lance un projet. » On fait une conférence de presse pour dire « Voici le projet. Ouais. Voilà les deux buildings. Voilà les étudiants vont être où. Voilà les cours additionnels. Voilà les pavillons additionnels qu'on va utiliser. »
Fait que là, on tasse les itinérants, on accueille les journalistes pour dire que finalement, on va embaucher quelqu'un pour penser à ça pendant 5 ans.
Ben, c'est ça. on a investi 665 000 pour monter le projet, c'est sur une période de 5 ans.
Max!
Le sous-ministre à la cybersécurité et au numérique, Stéphane Le Bouillonnec, s'inquiète de la vulnérabilité des données des Québécois face aux Américains. Radio-Canada rapporte ce matin que lors de l'étude des crédits de son ministère le 27 mai, ses explications ont contredit les propos plus rassurants véhiculés par le gouvernement du Québec et Santé Québec. On apprend notamment que les données sensibles des Québécois inscrits au dossier santé numérique ne migreront pas vers un nuage gouvernemental sécurisé avant 18 ou 24 mois. C'est donc dire que ces données seront à la merci du fameux Cloud Act, qui est la loi américaine qui permet aux autorités d'obliger toute entreprise américaine, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, à leur remettre les données qu'elles détiennent, et ce, même si ces données-là sont hébergées sur des serveurs dans un autre pays. Fait que mettons que nous autres, on a un cloud Microsoft installé au Canada, ben les États-Unis peuvent quand même dire « Hey, Microsoft, on veut les données qui sont dans ce cloud-là, Microsoft au Canada. » Le sous-ministre Le Bouillonnec a été clair, dit « La question du Cloud Act est une préoccupation importante pour le gouvernement du Québec. » Ces propos qui rejoignent pas mal ceux de l'ex-ministre Gilles Bélanger, qui a été tassé par la première ministre Christine Fréchette lors du dernier remaniement. Une nouvelle directive du ministère de la langue française vient donner du trouble aux villes du Québec. C'est le journal qui rapporte que depuis hier, les employés municipaux doivent vérifier avant chaque achat que l'entreprise participe au processus de francisation prévu par la Charte de la langue française. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, ce qui était des transactions en bas de 5 000 $, c'était exclu du processus. Maintenant, le ministère est clair, cette vérification doit être faite systématiquement avant la conclusion d'un contrat à exécution instantanée. Exemple, achat courant, location d'un outil pour déboucher un drain, achat d'une pelle, achat d'un repas dans un restaurant, réservation d'une chambre d'hôtel. Fait que tout ce que tu dois acheter là, en tant que ville ou employé de ville pour la ville, ben il faut que tu vérifies si l'entreprise est dans la liste des entreprises qui participent au processus de francisation prévu par la Charte de la langue française. Le DG de l'Association des directeurs municipaux du Québec, Marc-André Paulin, déplore la situation. Dit là, il va falloir qu'un employé de la voirie valide avant d'aller acheter une pelle à la quincaillerie du coin. La Fédération québécoise des municipalités dénonce de son côté une lourdeur administrative incroyable. Le ministre fédéral responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, se rendra aujourd'hui à Washington à un mois de l'examen de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Il sera accompagné de la nouvelle négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis, Janice Charrette, pour rencontrer le représentant américain au commerce, Jameson Greer. Pendant que les négos Canada-États-Unis sont au point mort, le Mexique et les États-Unis ont de leur côté amorcé des discussions, doivent les poursuivre sous peu. Radio-Canada révélait en avril que Donald Trump exigeait certaines concessions de Ottawa comme simple prix d'entrée pour s'engager dans des négos. Ottawa qui n'avait pas répondu positivement là, à ces demandes-là. Et l'administration Trump a annoncé un assouplissement ciblé de certains tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium pour stimuler davantage la fabrication aux États-Unis. On dit qu'on réduit de 25 à 15 les droits imposés sur certains produits dérivés de l'acier et de l'aluminium, notamment de l'équipement agricole ainsi que certains systèmes résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation, certains équipements industriels mobiles comme des bulldozers et des chariots élévateurs pourront aussi bénéficier de tarifs réduits quand ça viendra de pays visés par des accords commerciaux. En parallèle, Washington ajoute de nouveaux produits à la liste des importations soumises à des droits de 25%, dont les rayonnages en acier et certaines plaques d'aluminium utilisées en imprimerie. Des mesures qui vont entrer en vigueur le 8 juin doivent rester en place jusqu'à la fin 2027. Fait que c'est pas des gros changements. Là, on voyait comme le gros titre « Réduction tarif acier aluminium ». Finalement, c'est comme mineur puis ça touche vraiment des trucs très, très, très ciblés.
Bon, ce qui est le plus inquiétant, Jeff, pour l'ACEUM, c'est que le Mexique négocie depuis déjà plusieurs semaines, tandis que le Canada n'est pas encore dans le coup. Là, puis on s'entend que le Canada puis les États-Unis, c'est un bon partenaire financier. On est plus gagnant dans l'aventure parce qu'on exporte plus de choses qu'on en importe.
Oui, exactement.
Donc, on est plus gagnant dans l'aventure. Donald Trump et ses acolytes veulent plus faire les véhicules aux États-Unis. Puis là, ben, tu comprends que ça fait pas l'affaire de Mark Carney, surtout dans le secteur de l'Ontario où l'industrie de l'automobile est quand même omniprésente. C'est des pertes d'emplois épouvantables. Donc, puis on nous dit que c'est l'attitude de Mark Carney, sans nécessairement le cibler. Là, on nous dit que c'est l'attitude de Mark Carney, ce qu'il a fait dans les derniers mois, qui fait en sorte que...
Ben, il y a une stratégie
oui, avec le Mexique,
différente.
Non avec le Canada pour l'instant.
Ben, Dominique Leblanc négocie aujourd'hui, là, il est à Washington, donc on va suivre le tout. Mark Carney, une stratégie complètement différente que le Mexique. Sa stratégie, c'est de dire « je suis très en attente pour le moment, je diversifie au maximum l'économie ». Puis, il a l'air à vouloir attendre jusqu'aux élections de mi-mandat pour voir s'il y a de la pression, justement,
ça
qui
revient,
va se faire à l'interne.
Ça revient avec ce que Jean Charest a mentionné. Si on ne réussit pas à arriver avec un accord, on revient avec l'accord initial qu'on avait,
ouais.
qui avait été signé par Donald Trump en 2017.
Exactement. Exactement, c'est celui-là qui se poursuit. Là. Puis là, pourrait se poursuivre de mémoire jusqu'en 2036.
2036.
Là, c'est ça?
Ouais.
C'est ça, exactement. Fait que c'est complètement deux stratégies différentes à voir au fil d'arrivée qui va avoir utilisé la meilleure stratégie.
Mais c'est les investissements qui se font pas pendant ce temps-là.
T'sais, c'est clair.
Exemple, les hommes et les femmes d'affaires au Canada qui veulent investir aux États-Unis, qui veulent investir dans leur entreprise, qui veulent investir au Canada, se disent « j'attends de savoir qu'est-ce qui va se passer
ouais. ».
Ça, c'est jamais bon. Là.
Non, mais en même temps, qui est capable de négocier avec Donald Trump?
Ben, pour l'instant, c'est le Mexique.
Ouais, mais est-ce qu'il y a eu des retombées pour l'instant? Non.
Qu'est-ce qu'il y a, Max?
Ben, je te fais des signes de hockey pour te dire que c'est l'heure des sports.
Tu veux me parler du hockey? Ben là, c'est OK. Tu veux me parler du hockey? C'est pas fini, le hockey?
Ben non, ben oui, mais non.
Les sports. Sports.
Max, c'est pas fini, le hockey?
Non,
okay,
parce que
non.
La finale de la Coupe Stanley commence ce soir entre les Golden Knights de Vegas et les Hurricanes de la Caroline. Et là, Mitch Marner nous tient au bout de ses lèvres parce qu'il nous a dit qu'il avait vécu des moments très difficiles, qu'il voulait pas entrer dans les détails, mais qu'il allait y aller s'il gagnait la Coupe Stanley. Fait que là, il va-tu vider son sac concernant son temps à Toronto? S'il gagne la coupe, ça sent un peu ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que Mitch Marner aura à nous dire.
Mais ça, je comprends pas ces réflexes-là, Jeff. Si tu gagnes la coupe Stanley, buddy, là, t'as plus rien à dire.
Non, non, exactement.
T'es un acteur important dans la victoire qui te mène à la coupe Stanley. Tu sais quoi? T'as rien à dire. Tes gestes vont parler.
Exactement. Tu fais comme Phil Kessel à la limite. Tu te prends une page de publicité avec toi, une photo avec la coupe Stanley pour narguer les partisans des Leafs.
Ben, ça, c'est plus mon genre.
Et t'envoies un chèque de 100 000 $ au vendeur d'hot dog qui te faisait toujours un bon hot dog à sortie de l'aréna.
Exactement.
T'as pas besoin. T'es Phil Kessel n'a jamais parlé aux journalistes en mal de son passage à Toronto.
C'est ça.
Même si on comprend très bien qu'il l'a pas apprécié.
Exactement.
Mais il a juste envoyé sa photo avec la coupe Stanley, un petit 100 000 au vendeur d'hot dog. Ça voulait tout dire.
C'est le meilleur fuck you à ton ancien employeur. Défonce-toi,
oui.
Sois le meilleur, essaye de produire le plus possible, essaye de briller. Puis une fois que tu auras tes victoires, laisse parler tes victoires. Merci,
exactement. Tout le monde disait Marner est le problème à Toronto, ne performe pas en série. Mais présentement, c'est encore le premier marqueur des séries.
Ben, c'est celui qui va gagner le
Conn Smythe. Celui qui va gagner Conn Smythe si les Vegas l'emportent.
Fait, faut pas qu'il gâche le moment en vidant son sac après la victoire.
Ben non, hey! T'as la coupe dans les mains, t'as le Conn Smythe dans les mains.
C'est suffisant.
Un peu comme Jonathan, on dit Marchessault aussi. Tu sais, qui s'était fait bouder par plein d'organisations. Il est arrivé à Vegas, s'est installé là, a super bien performé, gagné le Conn Smythe, la coupe Stanley. Quand il a levé deux trophées, il y a eu une pensée pour le Lightning, les Rangers, les Panthers qui l'avaient laissé à l'abandon. Pour tous ceux qui n'ont pas cru à lui parce qu'il était trop petit puis il était obligé de jouer 20 ans dans le junior. Puis il a dit, regarde, quand... Je suis le meilleur maintenant.
Voilà.
Sinon, pour ce qui est du Canadien, ben, c'était jour de bilan hier, puis c'est vraiment Brandon Gallagher qui a retenu toute l'attention en annonçant pratiquement qu'il avait joué son dernier match à Montréal. Il était très, très émotif, puis on peut le comprendre, là, Brandon Gallagher qui a passé toute sa carrière à Montréal.
You know, incredibly, incredibly. Sorry. Jeez. No, I'm just, I'm very fortunate. No, I just, I had a thought about my mom.
Ça, Ça a été le cœur et l'âme du Canadien pendant des années et des années. Je trouve ça triste que lui veut continuer. Puis finalement, l'organisation lui a dit qu'il était à ses dernières heures chez le Canadien. C'est quoi son plan? Il se met dans un bain de glace là, jusqu'au prochain camp d'entraînement dans l'espoir d'être invité?
Ben hier, on parlait beaucoup des Canucks de Vancouver qui sont en reconstruction. C'est un gars qui vient de là. Il a joué pour les Giants de Vancouver dans le junior comme une façon de boucler la boucle.
Et es-tu capable à 34 ans de revenir comme un jeune homme avec de la physio? Avec,
oh non. Non.
Mais c'est dans un club de même, tu sais, là, le Canadien pourrait. Puis je checkais le coût d'un rachat de contrat, puis je pensais que c'était plus que ça. Tu sais, ça coûterait 3,8 millions pour l'année qui vient. Fait qu'à ce moment-là, tu sauverais 2,6 millions. Puis après ça, ben pour l'autre année d'après, alors que normalement, tu le payerais plus, tu paierais juste 1,3 millions.
Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Fait que le plafond qui va augmenter encore significativement.
Exact. Fait que tu sais, moi, être le Canadien, là, regarde, merci Brandon pour tes services. On rachète ton contrat. Va où tu veux. Puis il y a une équipe qui va donner un contrat à Brandon Gallagher pour. Il va jouer sur un 3-4e trio. Il va peut-être se mettre en avant du net en power play, mais surtout, tu sais, ça sera pas avec une équipe contender. Là. Ça va être justement avec une équipe comme les Canucks de Vancouver, une jeune équipe. Il va peut-être aller. San Jose est peut-être trop rendu, mais tu sais, avec une jeune équipe pour être un bon leader comme il l'a été à Montréal, puis si c'est le même qui va finir sa carrière.
Comme on l'a vu un peu avec Nick Foligno avec les Blackhawks de Chicago, quand je vais faire un comparatif.
Ouais.
T'es arrivé là, c'est un leader, il est encore très jeune.
Plutôt Kent Hughes qui avait été prudent quand il était questionné au sujet de Gallagher. Même chose concernant les cas de Laine et Montembeau. D'ailleurs, là, j'ai hâte de voir parce que Laine a mentionné qu'il n'était plus blessé, qu'il était prêt à jouer. Alors que Hughes avait un peu laissé entendre plutôt que c'était le choix de Laine de pas trop pousser la machine puis d'être prudent pour pas nécessairement revenir au jeu tout de suite. Fait que j'ai hâte de voir. T'es pas supposé laisser un gars sur la liste des blessés alors que lui dit qu'il est prêt à jouer.
C'est vrai.
Fait que je sais pas si le Canadien va se faire taper ses doigts. Pour ce qui est de Montembeau, ben lui semble ne pas avoir fait croix sur un retour avec le Canadien la saison prochaine. Donc, à suivre. Donc, je parlais de la finale, ça commence ce soir. Pendant ce temps-là, finale dans la NBA entre les Knicks et les Spurs. Je vous rappelle que c'est demain que ça commence. Dans la MLB, début d'une nouvelle série ce soir pour les Blue Jays face aux Braves à Atlanta. Et Capitale de Québec, début d'une série de 6 matchs à domicile cette semaine. Et ça commence avec une série contre New York.
6h44, bon mardi.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la